Bonsoir à toutes et à tous. Entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, du masque à la reconnaissance faciale, le visage est-il le dernier lieu de résistance politique? Des lasers utilisés par les manifestants de Hong Kong pour ne pas être reconnus par les caméras de la police, au personnage du film Joker qui met en scène une révolte urbaine menacée menée par un clown grimaçant, le visage semble être devenu un enjeu d'identification et de reconnaissance. Les États, comme les grandes sociétés qui collectent des données informatiques, sont intéressés en effet à cette reconnaissance faciale que refuse une partie des citoyens pour qui se couvrir le visage grâce au maquillage, à la cagoule, au masque est une façon de préserver ses libertés. Le visage est-il le dernier lieu de résistance politique? C'est ce que nous allons demander à nos quatre invités ce soir. Jacques Barthélémy est préfet de région honoraire. Il est en duplex avec nous depuis France Bleu Bourgogne à Dijon. Pierre Piazza est également avec nous ici en studio. Il est maître de conférence en sciences politiques à Cergy et co-commissaire de l'exposition La science à la poursuite du crime aux Archives nationales autour de la figure d'Alphonse Bertillon. En particulier. Félix Tréguer est chercheur, post-doctorant au CERI Sciences Po et membre fondateur de la Quadrature du Net. Et enfin, François-David Sema est philosophe, professeur à l'Université Paris-Nanterre.
Citoyens du monde, nous sommes les anonymes.
Bien le bonjour, aujourd'hui je vous montre comment je reproduis le masque d'Anonymous sur mon visage. Alors je commence avec la crème.
Leur masque symbolise cet anonymat qu'ils veulent préserver.
Et surtout, on n'en met pas sur les oreilles ni sur le cou, parce que le but, c'est de donner l'impression qu'on porte un masque, justement.
One small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
Mais un conseil, mon gars, fous ta cagoule, fous ta cagoule, fous ta cagoule.
Voilà un petit mash-up, comme on dit en rap, organisé par Anna Buiss ce soir, donc pour ouvrir cette émission sur le visage, avec par exemple des extraits de tutos, comme on dit sur Internet, des tutos pour reproduire le masque d'Anonymous. Bonsoir Félix Tréguer, vous êtes donc membre fondateur de la Quadrature du Net et vous faites partie de tous ceux qui justement contestent les façons dont les gouvernements, et en particulier le gouvernement français, a l'intention ces temps-ci justement de faire avancer cette question de la reconnaissance faciale. Qu'est-ce que vous voyez comme menace dans cette reconnaissance faciale qui est déjà à l'œuvre, on le sait, en particulier en Chine, mais qui se développe un peu partout très rapidement?
À terme, c'est la possibilité de contrôle d'identité invisible permanent à partir du moment où le visage devient un instrument d'identification, de surveillance. Il devient plutôt que ce référent intime et l'expression de notre personnalité tout entière, un instrument de contrôle social potentiel, quoi. Et clairement, je pense que à terme, la surveillance fondée sur la reconnaissance faciale dans l'espace public en temps réel, puisque ça fait partie de l'une des applications des formes de reconnaissance faciale automatisée, c'est l'équivalent d'imposer à chaque citoyen de se balader avec un code-barre collé sur le front dans l'espace public, quoi. Et il faut se demander, du coup, si dans un régime politique qui se dit démocratique, qui dit respecter l'état de droit, cette possibilité octroyée aux autorités ne s'assimile pas à une forme de surveillance massive et se poser la question de savoir si nos grands-parents, au début des années 40, s'ils avaient dû vivre dans un monde saturé de dispositifs de ce type, auraient-ils pu s'organiser, rentrer en clandestinité pour résister à l'occupant nazi?
François-David Sema, bonsoir. Vous êtes philosophe, je vous rappelle, vous êtes professeur à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes intervenu en début de cette année 2019 chez Adèle Manrette dans les chemins de la philosophie. Et vous êtes spécialiste, entre autres, de la pensée d'Emmanuel Lévinas. Pour Lévinas, pour qui le visage est très important, qu'est-ce que cela nous dit, qui nous permette de comprendre pourquoi cette partie du corps est différente des autres parties du corps et pourquoi certains, comme vient de le dire Félix Tréguer, veulent justement le protéger des incursions, des regards des autres et en particulier des regards des États ou des grandes sociétés informatiques qui récoltent nos données. François-David Sema.
Eh bien, alors, la manière dont Lévinas décrit le visage est assez singulière parce que ce qu'on associe traditionnellement à la notion de visage, c'est effectivement que c'est le support à la fois de notre humanité et de l'identité personnelle, de l'identité de la personne. Et au fond, c'est pas tellement là-dessus que Lévinas, lui, insiste. Le visage, s'il importe, c'est parce qu'il est exemplairement dans le corps humain, le lieu maximum d'une certaine expressivité, qui est l'expressivité d'un appel, parce qu'un visage, c'est l'expression alors lui, dit carrément, du « tu ne tueras pas », c'est-à-dire... c'est ce qui nous met dans une dimension commune de signification qui ne peut pas être fondée d'abord et uniquement sur le rapport de force. Et alors, voilà, je pense qu'on peut même faire porter le débat à ce niveau-là.
Parce que la peau du visage, dit-il, c'est la plus nue.
Voilà, c'est la nudité.
C'est la plus dénuée, la plus nue, bien que d'une nudité décente, dit Emmanuel Lévinas, le philosophe. Et donc, il y a aussi cette dimension, effectivement, de cette nudité qui fait de nous, justement, quand je vous regarde, eh bien, je vous reconnais, vous me reconnaissez. Il y a une reconnaissance mutuelle, mais une reconnaissance qui n'a rien à voir avec la reconnaissance faciale.
Exactement, c'est ça qui est très intéressant. Quand j'entendais le début de notre débat, il faut là se refuser à ce qu'on appelle la reconnaissance faciale, parce que la reconnaissance faciale, là, en fait, c'est une identification sur critères objectifs, hein, et qu'on peut effectivement mesurer exactement, calculé. Et c'est évidemment pas de cette reconnaissance-là qu'il s'agit. Le terme peut avoir un tout autre sens. C'est ce qu'on demande quand on demande d'être reconnu par son visage. C'est au fond, c'est qu'on demande à l'autre d'être...
De reconnaître son humanité.
D'acquiescer à son existence même, hein, son humanité, sa personnalité, son droit d'exister, de continuer à exister.
Voilà. Et pourtant, Pierre Piazza, bonsoir, vous êtes bonsoir. Maître de conférences en sciences politiques et en socio-histoire, pourrait-on dire, à Cergy, et vous êtes le co-commissaire de cette exposition qui s'intitule « La science à la poursuite du crime » autour de la figure d'Alphonse Bertillon, celui qui a inventé l'identité criminelle à la fin du 19e et au début du 20e siècle. C'est aux Archives nationales à Paris. Pourtant, il y a la volonté aussi par ces scientifiques qui se mettent au service justement de la poursuite du crime de prendre le visage, mais pas simplement le visage, comme étant des critères identifiants et permettant de poursuivre justement ceux qui sont des criminels.
Alors pas seulement les criminels d'ailleurs. L'idée première d'Alphonse Bertillon, c'est de trouver un système qui permet de s'assurer véritablement de l'identité de chacun, sans passer par l'état civil, parce que on peut prendre différents états civils. L'état civil, c'est pas quelque chose de très fiable. Hein, on peut en changer. On peut avoir des variations d'état civil. Et donc la grande idée de Bertillon, c'est, mais on y est aussi avec la reconnaissance faciale, c'est de raccrocher l'identité au corps de l'individu. Alors il y a différentes façons de rattacher l'identité au corps, hein, c'est-à-dire faire parler les corps, comme le dit Bertillon. C'est par exemple des mensurations anthropométriques, on a tous des mensurations différentes. C'est par exemple
les empreintes digitales,
bien évidemment. C'est aussi les stigmates corporels. C'est la description mathématique que fait Bertillon du visage, hein, ce qu'il appelle le signalement descriptif ou le portrait parlé. Et donc tout ça permet de figer l'identité et donc d'aller au-delà de l'état civil, c'est-à-dire de s'assurer qu'un individu, même s'il ment sur son identité, eh bien on le retrouvera toujours sous cette identité. Et dans un premier sens, ça sert à lutter contre les récidivistes, hein, c'est la finalité avancée. Mais rapidement, on va s'en servir, notamment à travers le visage, pour faire d'autres choses, reconnaître dans l'espace public, par exemple, les anarchistes, les déserteurs, etc. Donc le visage se transforme aussi en outil de surveillance très tôt, hein, dans l'espace public, sans les caméras bien sûr à l'époque, mais on utilise par exemple des instruments portatifs de surveillance que sont les albums DKV pour repérer dans une foule des individus que les policiers n'ont jamais vus mais qui sont recherchés et qu'on arrive ainsi à identifier.
Il y a des sortes de physionomistes comme on en a en l'entrée des boîtes aujourd'hui, des physionomistes qui permettent de repérer ceux qui sont poursuivis par la police. Et ça ne s'arrête pas, d'une certaine façon. Ce qui est intéressant, Pierre Piazza, c'est que tout au long du XXe siècle, les procédures qui sont mises en place par Bertillon sont dépassées parce que on a trouvé d'autres moyens, d'une certaine façon, et on va toujours plus loin dans cette volonté de faire parler les corps.
Alors on va toujours plus loin parce que maintenant, bien sûr, on a par exemple l'ADN, on a les empreintes digitales que vous avez évoquées. On identifie, ça se sait assez peu maintenant, de plus en plus par les odeurs, hein, on a tous une odeur singulière. Alors à la différence de l'identification par le visage, vous voyez, toutes ces identifications, traces digitales, ADN, odeurs, sont des identifiants qui laissent des traces. Le visage ne laisse pas de traces. Le visage ne laisse pas de traces, mais les technologies permettent de le capter beaucoup plus aisément que l'ADN, les empreintes digitales, parce qu'il suffit d'une caméra de vidéosurveillance, certains diront protection, mais il suffit d'une caméra, vous voyez, pour capter des visages à la volée et de comparer tout ça à des fichiers de personnes recherchées ou pas, d'ailleurs, ça dépend pour quel motif. Donc c'est toute l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on a une puissance des instruments technologiques qui maintenant permet de capter des millions de données et éventuellement s'en servir à des fins de contrôle social, de surveillance. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que, parce qu'il ne faut pas oublier cette dimension, l'identification faciale permet aussi d'attribuer des droits hein, à travers la singularité de chacun. Ça vous permet de vous reconnaître comme unique. Donc ça permet aussi d'avoir des droits, le droit de vote, etc. Donc il y a toujours cette ambiguïté dans ces techniques.
Jacques Barthélémy, vous êtes le dernier participant et je vous donne la parole en dernier, je m'en excuse. Vous êtes avec nous depuis France Bleu Bourgogne à Dijon et vous êtes préfet de région honoraire. Vous êtes ancien conseiller d'État, ancien élève de l'ENA. Vous avez travaillé comme sous-préfet puis comme préfet pendant 21 ans à 7 postes différents. Et nous tenions à vous avoir avec nous parce que d'une certaine façon, j'imagine que ces questions qui sont posées telles que nous les posons ne correspondent pas exactement à la vision que vous pouvez avoir, vous, en tant qu'ancien préfet, justement, de cette nécessité ou non de continuer à aller encore plus loin, comme on le disait avec Pierre Piazza, dans la reconnaissance physique des individus et dans le fichage peut-être aussi de ces individus.
Oui, alors moi là-dessus, je voudrais revenir sur l'expression utilisée par le dernier intervenant en disant qu'il y a une ambivalence. En fait, dans tout cela, cette ambivalence, elle est au départ dans le mot persona, dont Lévinas dit d'ailleurs qu'elle exprime le personnage et la personne. Persona en latin, c'est un masque de théâtre. Et on voit bien que cette ambivalence, cette ambiguïté, est exactement ce qui régit le domaine des libertés publiques. Un préfet, un gouvernement a toujours le souci d'éviter que les gens viennent dans des manifestations masquées, parce qu'on aura du mal à les identifier, à les poursuivre éventuellement, à les juger, etc. Donc, la reconnaissance faciale ou les textes contre le fait de se masquer dans des manifestations, comme la récente loi d'avril 2019 en France, ou comme ce qui se prépare à Hong Kong, sont des éléments de lutte anti-manifestation. Bon, très bien. Alors après, la lutte contre les manifestations, qui se traduit, comme vous l'avez exprimé tout à l'heure, comme le premier intervenant l'a exprimé, par une répression, la répression, elle peut être aussi la gardienne de la démocratie. C'est évident, il faut bien protéger les libertés publiques contre des gens qui voudraient y porter atteinte. Mais elle peut être aussi une répression qui porte atteinte aux libertés publiques. C'est pour ça que pour un préfet, l'ordre public est toujours régi par le droit. C'est pas un ordre public absolu, total, où on fait n'importe quoi. Il y a des règles de droit, je n'y reviens pas. On pourrait en parler, ça s'appuie, l'ordre public, l'emploi de la force s'appuie sur le principe d'absolue nécessité, de proportionnalité et de gradation. Mais quand on a dit ça, et que vous abordez la reconnaissance faciale, on peut dire quelques autres choses. D'abord, c'est que 45% des mobiles vendus en 2018 utilisent la reconnaissance faciale pour les débloquer, que Facebook et Google les utilisent, que Sidral Technologies en 2019 diffuse un système qui permet d'avoir une reconnaissance faciale depuis un téléphone. C'est un moteur de recherche grand public. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que les États qui veulent, si je puis dire, faire de la reconnaissance faciale un outil de lutte contre les manifestants ou un outil d'identification. C'est un système qui, effectivement, lorsqu'il est pris dans des systèmes non démocratiques comme la Chine, peut conduire à ce que l'on a vu du crédit social qui se met en place en Chine. Mais je rappelle que la reconnaissance faciale existe aussi dans des pays démocratiques comme la Grande-Bretagne, le Danemark, et très marginalement chez nous en France, du moins à titre d'expérience. Mais elle existe à Air France, elle existe dans les banques, à la Société Générale, et elle a été testée, vous le savez, à l'occasion du carnaval de Nice. Bon, donc, je crois que là-dessus, il y a une critique qui a porté, notamment, sur une application qui s'appelle Alicem. Alicem, c'est l'authentification en ligne qui est développée par le ministère de l'Intérieur et l'Agence des titres sécurisés. À cette occasion, il était prévu d'accéder au service public en ligne à travers une reconnaissance faciale. Et là, la CNIL a critiqué le projet en 2018, ce que n'a pas
la Commission nationale à l'informatique et liberté, oui, donc voilà, qui est donc là pour protéger justement les libertés.
Voilà, exactement. Ce qui n'a pas empêché le gouvernement de prendre un décret en mai 2019 pour autoriser cette application Alicem. Alors, faut rappeler une chose toute simple, c'est que la reconnaissance faciale s'appuie, comme l'ont dit certains de l'intervenant précédent, sur des données biométriques. Et ces données biométriques sont des données sensibles au sens de l'article 9-1 du règlement sur la protection des données personnelles qui interdit le traitement de ces données sensibles. Donc, soit on veut être logique avec soi-même et on applique le RGPD européen, et en fait, on ne peut pas utiliser les données biométriques. Voilà. Donc, on voit bien toute la différence, et la CNIL est là pour le rappeler, entre des systèmes qui, parfois animés des bonnes intentions pour lutter contre le crime, la fraude ou le terrorisme, peuvent évidemment se retourner contre le citoyen, si je puis dire, ordinaire.
On écoute d'ailleurs le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, qui voulait justement des expérimentations et des débats sur ces questions. C'était sur France Info le 27 octobre dernier.
Aujourd'hui, tout le monde parle sans savoir quels sont le taux d'erreur, quel est le taux de faux positifs, et tout le monde parle en pensant à la Chine. Donc, il faut d'abord qu'on expérimente, qu'on ait un certain nombre de données, et qu'ensuite on puisse avoir un débat public. Est-ce qu'on doit utiliser la reconnaissance faciale pour entrer dans les lycées, c'est-à-dire pour des mineurs? Est-ce qu'on doit utiliser la reconnaissance faciale pour vous authentifier, déverrouiller votre téléphone ou retirer un colis? Ça me semble poser moins de problèmes dès lors que c'est encadré. Est-ce qu'on doit utiliser la reconnaissance faciale
pour
aller chercher des terroristes dans la foule ou aller chercher une personne âgée qui s'est perdue? Le débat se pose.
Voilà ce que disait Cédric O, c'était donc le 27 octobre dernier sur France Info. Félix Traeger, je rappelle que vous êtes chercheur postdoctorant aux séries Sciences Po et membre fondateur de la Quadrature du NEC qui combat justement ces questions en particulier de reconnaissance faciale telles qu'elles sont proposées par le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée et en particulier ce qui était dit à l'instant même par Jacques Barthélémy avant Cédric O, à savoir, ben oui, on laisse les grandes sociétés informatiques nous mettre en place sur nos téléphones portables des reconnaissances faciales, des prises de pouces et d'empreintes digitales, et on ne veut pas que l'État fasse de même.
Bon, c'est une posture et un type d'argument assez classique. Je me souviens des débats sur la loi renseignement en 2015 s'agissant de la surveillance d'Internet par les services de renseignement où les ministres en charge de défendre cette loi dans l'hémicycle pointaient déjà du doigt la facilité avec laquelle le Quidam propose ses données personnelles aux grands acteurs oligopolistiques de l'économie numérique. C'est vrai, bien sûr, c'est un fait. Pour derrière justifier...
On pourrait créer des campagnes pour interdire ou demander aux citoyens de ne pas faire cela.
Absolument, sans doute devrait-on le faire. En fait, déjà dans le droit, il y a plusieurs outils qui pourraient être mobilisés pour casser le modèle économique de collecte généralisée des données, notamment des données biométriques exercées par ces acteurs. La chose, c'est que dans ces débats, souvent ces usages, disons récréatifs ou mis en œuvre dans un cadre commercial ou privé de la reconnaissance faciale ou d'autres technologies de surveillance, servent ensuite à légitimer l'usage par les autorités publiques, par la police notamment, de ces mêmes technologies. Et en fait, on est face à une ornière dans ce débat, si on le pose dans ces termes, c'est que, en fait, la reconnaissance faciale, c'est une technologie, c'est un type de technologie fondée sur les algorithmes d'analyse automatisée des flux de vidéosurveillance. Et c'est une technologie qui est plus que ça, c'est une technologie qui fait idéologie, qui pose l'idée que le contrôle est plus important que la liberté, que la vie privée, qui pose cette idée que nos caractéristiques biométriques infalsifiables peuvent être utilisées comme des moyens de contrôle. Et du coup, nous, on est dans une posture, clairement dans ce débat, d'appeler à une interdiction législative claire des usages policiers de la reconnaissance faciale. Et clairement, les usages récréatifs posent aussi problème. Et il faut évidemment s'interroger collectivement sur eux.
Françoise David Seba, que fait-on quand on masque son visage? C'est-à-dire, que fait-on quand on met du maquillage, comme un maquillage Anonymous, on entendait ça ce matin, quand on met un masque, quand on prend le masque de Joker, parce qu'on a été voir le film et parce qu'on considère qu'il y a une revendication politique, qu'est-ce qu'on fait justement quand on fait cela dans l'espace public?
Alors, bon, de manière évidente, c'est une manière effectivement de court-circuiter l'identification, c'est-à-dire le fait d'être déjà pris en fait. Et on se rend anonyme et invisible. Alors.
Mais c'est d'une revendication politique que de se rendre anonyme et invisible dans ces cas-là.
C'est une revendication politique. Ensuite, c'est quel est le statut de cet anonymat, de cette invisibilité? C'est une invisibilité de lutte, hein, c'est une clandestinité en fait.
C'est pour ça d'ailleurs que ça fait le tour de la planète et qu'on voit les mêmes masques fleurir à Hong Kong, au Liban, au Chili, etc., etc.
Donc, et ça montre bien d'ailleurs et on parlait d'ambivalence. Je pense qu'effectivement, il y a une ambivalence, une double valeur, même un caractère, on pourrait dire, pharmacologique, c'est-à-dire certaines doses, c'est bénéfique, à d'autres doses, c'est négatif. Effectivement, quand on se rend invisible... D'une part, on peut penser, il y a dans Platon un personnage comme ça qui est repris, c'est Gigès, et quand on a un anneau d'invisibilité, on échappe effectivement à la visibilité sociale. Et que fait Gigès? Eh ben, il commet l'injustice, parce que c'est trop tentant. Quand on est rendu invisible, on peut faire ce qu'on veut.
Et c'est ce que craignent les autorités, voilà, en particulier.
C'est ce que craignent les autorités. Mais en même temps, l'invisibilité, c'est ce qu'il y a aussi de plus précieux, puisque c'est, on pourrait dire, l'intériorité. Donc... cet anonymat, voilà, c'est à la fois un anonymat de collectif, d'une force collective qui passe les individus, et c'est à la fois la possibilité de prendre du retrait, de pas être mis à disposition de la puissance, du pouvoir.
Pierre Piazza, on a connu cela, les cagoules servaient déjà depuis longtemps dans les manifestations.
Oui, bien sûr. Alors, il y a la volonté. Moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est que dans tous les cas que vous évoquez, on a cette idée que finalement, les gens se trouvent des stratégies pour ne pas être reconnus, parce qu'ils mettent en avant des libertés face à des régimes qui, eux, sont plutôt répressifs. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est que ces technologies-là, finalement, elles sont quand même utilisées, là, dans tous les cas que vous citez, par des régimes qui sont, disons, plutôt autoritaires, pour réprimer des populations qui mettent en avant la liberté. Donc, vous voyez, c'est un peu le danger. Ce sont des techniques, on peut en faire des choses très bien, reconnaître l'unicité de chacun, garantir des droits, des libertés, mais on peut aussi utiliser ces techniques-là comme des techniques de contrôle, de surveillance et de répression, voire de discrimination. Alors, on cite souvent le cas de la Chine, mais il y a d'autres cas dans lesquels, bien évidemment, ces techniques-là, elles sont quand même utilisées de manière liberticide.
Toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent, un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
On attend les réactions de ceux et celles qui n'apprécient pas Johnny Hallyday pour réagir à cette programmation en milieu d'émission. Il est 18h43 dans le temps du débat. Nous parlons de ces questions de reconnaissance faciale, de masques, de maquillage et du visage comme dernier lieu de résistance politique. Qu'est-ce que vous entendez en tant qu'ancien préfet, Jacques Barthélémy, ces réticences, pourrait-on dire, à montrer son visage? Vous dites dans les manifestations, il faut absolument reconnaître ceux qui pourraient commettre des délits, des méfaits, mais néanmoins, on voit bien qu'il y a une réticence de plus en plus grande pour certains à trouver des biais, par exemple, face à cette reconnaissance faciale, en maquillant son visage de telle manière qu'il ne puisse pas être reconnu par les algorithmes de la reconnaissance faciale.
Oui, évidemment. Ce qui prouve les intentions, soit malveillantes, soit politiquement opposé à tel ou tel gouvernement. Mais je voudrais rappeler qu'on est quand même dans une démocratie en France et que ce qu'a dit le secrétaire d'État tout à l'heure, va dans le bon sens, en tout cas si on veut appliquer une reconnaissance faciale raisonnable en France. C'est-à-dire, il a proposé, parce que le modèle Alicem, l'application Alicem,
il faut rappeler pour les auditeurs qui nous rejoignent que c'est cette application qui permettrait justement à être authentifié en ligne par la reconnaissance faciale.
Voilà, pour accéder aux titres sécurisés et aux services publics. Pour l'instant, le gouvernement temporise. Il a bien compris qu'il y avait une difficulté. Et le secrétaire d'État propose de créer une instance d'évaluation de ces projets et de tenir un débat citoyen. Il a raison, c'est ce qu'il faut faire. Il faut tenir un débat citoyen sur ce sujet qui est difficile. Pourquoi ? Parce que l'État doit se protéger de lui-même quand on est dans une démocratie. Et pour les manifestations, qu'elles soient violentes ou non, il y a un vieux principe de la jurisprudence du Conseil d'État qu'il faut jamais oublier, qui a été rappelé dans un arrêt Baldi du 10 août 1917, qui disait « toute controverse de droit public » doit partir de ce point de vue que la liberté est la règle et la restriction de police l'exception. Il faut en revenir au vieux principe républicain. Donc, C'est vrai que la reconnaissance faciale, ça peut être le meilleur et le pire, mais il faut qu'on l'encadre, en tout cas dans un pays démocratique. On n'est pas en Chine ni à Hong Kong. Il faut, je pense, trouver une formule qui permet. Alors maintenant, le masque, vous allez me dire, c'est un vieux concept. Je vais vous donner un exemple. La capitale du masque, c'est Venise, historiquement. Ouais. Eh bien, le masque est un incognito. Il faut se rappeler que le carnaval de Venise a été supprimé par Napoléon en 1797, quand il a envahi Venise, parce qu'il avait peur des séditions. Donc vous voyez que le masque a toujours fait peur à tous les gouvernements, quels qu'ils soient. Et que donc, le régime de Bonaparte n'était pas le nôtre aujourd'hui. Non. Mais je voudrais revenir aussi sur...
Très brièvement, pour donner la parole aux autres.
Très brièvement, sur une phrase de Michel Foucault, dans Les mots et les choses, qui dit la chose suivante. Plus que la mort de Dieu, ou plutôt dans le sillage de cette mort, et selon une corrélation profonde avec elle, ce qu'annonce la pensée de Nietzsche, c'est la fin de son meurtrier. Et c'est ce qui est important, ce qui suit, c'est l'éclatement du visage de l'homme dans le rire, dans le retour des masques. Cette phrase s'applique typiquement au Joker.
Mais c'est très intéressant d'entendre un préfet comme vous en retraite, effectivement, Jacques Barthélémy, citer Michel Foucault. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de discuter de cette question du foucaldisme auprès justement des préfets. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit, Félix Tréguier et François-David Séba?
Moi, je vais y aller aussi de ma petite citation de Michel Foucault, dans un texte...
peut-être pas avec le même sens.
Non, de 1984, qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Rappelez que dans le projet des Lumières du XVIIIe siècle, il y a cette idée que le progrès de la connaissance, le progrès des capacités, notamment de la technologie, devait s'accompagner d'un progrès de l'autonomie et de la liberté, donc de la démocratie. Et lui constatait que l'équation ne valait pas vraiment et posait l'enjeu stratégique dans cet ami. Il se demandait, l'enjeu est donc comment déconnecter la croissance des capacités, notamment de la technologie, de l'intensification des relations de pouvoir. Et j'entends bien qu'on est peut-être dans un état qui n'est pas au stade d'autoritarisme de la Chine ou d'autres pays, évidemment. Par contre, à partir du moment où on met en place l'infrastructure technologique
où on donne les possibilités,
une forme de contrôle social totalitaire, est-ce qu'on est vraiment certain que le droit, que la technologie, que notre culture démocratique, qui n'est pas forcément au beau fixe, suffisent à nous prévenir de ces dérives?
François-David Séba.
Non, moi je voulais juste...
Parce qu'on a cité Lévinas, on a cité Platon, on a cité Foucault, on peut continuer.
Non, je voulais citer personne, mais je voulais remarquer une chose, c'est que la manière dont on pose comme ça le plus spontanément les questions, c'est-à-dire en termes de lutte, de défense, face à une autorité, à un pouvoir politique, conduit très vite à penser la technique, enfin la technologie, enfin, comme un ensemble de moyens a priori neutres, et on se dit si c'est un bon pouvoir, s'inquiéter, c'est ce que nous en faisons, c'est voilà tout ce discours-là.
Bien sûr.
Or, il me semble que justement, et là c'est typiquement, la technique, elle n'est pas neutre, elle est profondément ambivalente en elle-même et elle produit des effets. Et que c'est sur ces effets qu'il faut s'interroger, c'est-à-dire c'est pas est-ce qu'on aura le bon maître de cette technique. Et effectivement, ces techniques, alors là il y a une idée qui est très simple, ça met à disposition, je veux dire, c'est des techniques de mise à disposition, c'est des techniques effectivement de contrôle, et il y a des contrôles doux auxquels nous acquiesçons, une servitude volontaire dans laquelle... Bon,
cette critique de la technique, elle a été portée par Ellul, par Simondon, par Charbonneau et par d'autres, justement, qui, déjà dans les années 1970, nous ont avertis de ces questions possibles. Je vous propose d'écouter Christian Estrosi, le maire de Nice. Il se trouvait sur France Info ce matin à propos, justement, de ces questions d'installation de dispositifs dans deux lycées de Nice qui ont été retoqués par la CNIL.
Je vais vous dire une chose. De toute façon... Ça se fera.
Mais pas chez vous.
Vous savez, je ne veux pas qu'on perde le même retard que celui qu'on a perdu dans notre pays avec le développement des réseaux de caméras de vidéosurveillance. Il y a 15 ans, dès qu'on parlait de ce sujet, on disait interdit, attentatoire aux libertés individuelles, etc. Aujourd'hui, tout le monde en demande, on a du retard, il faut le rattraper. Ma ville est une des plus équipées et d'autres essaient de rattraper ce retard. Sur la reconnaissance faciale, on va y venir. Et aujourd'hui, nous savons que c'est un moyen de lutte contre le terrorisme, de lutte contre l'insécurité qui peut démultiplier l'efficacité de la police tout en préservant les libertés individuelles, puisque seuls ceux qui figurent sur des fichiers décidés par l'État et ce serait sous le contrôle de l'État, ont une chance d'être identifiés. Tous ceux qui ne sont pas dans un logiciel n'ont aucune raison d'être identifiés.
Voilà, les bons citoyens ne pourraient pas être identifiés. En revanche, ceux qui sont déjà dans les fichiers pourraient l'être. C'est sur France Info ce matin à propos des réticences de la CNIL vis-à-vis de l'installation d'un dispositif de lycées de Nice et de Marseille. C'était Christian Estrosi. Un petit mot, Pierre Piazza, avant de donner la parole à Jacques Barthélémy. Pierre Piazza.
Bon citoyen, mauvais citoyen, suspect, non suspect, vous voyez, ce sont des notions qui sont qui fluctuent au cours de l'histoire. Moi, ce que je constate, c'est que Nice est une des villes les plus vidéosurveillées de France et que ça n'a pas empêché les attentats, un attentat atroce d'être commis sur place. En fait, ce qu'il faut se poser aussi, c'est à quoi sert la reconnaissance faciale, parce que vous voyez, on veut un peu tout faire avec ça. Identifier l'accès au lycée, lutter contre la criminalité, lutter contre les terroristes, etc. Est-ce que ce système-là marche pour tout ça ? On peut se poser la question. Et puis surtout, en fait, moi je pense que ça alimente quand même une filière industrielle, surtout. Il y a des enjeux économiques dont il faut parler derrière tout ça. Et que les discours qu'on vient d'entendre sont souvent mis en avant, mais ne pointent pas tous les risques. Les risques, ils sont très nombreux. Atteinte aux libertés, atteinte à la vie privée, au droit d'innocence, au droit à l'image, etc. Donc, il faudrait aussi discuter tout ça et mettre tout ça dans la balance.
Jacques Barthélémy, effectivement, ce que dit aussi Christian Estrosi, c'est où nous avons une industrie à faire vivre. Il faut ne pas prendre de retard dans la course internationale à ces nouvelles technologies. Et donc, il faudrait que nous appliquions ces technologies chez nous pour pouvoir les tester d'une certaine façon.
Oui, mais pas dans n'importe quelles conditions. Ce que Monsieur Estrosi a parlé de l'État. En fait, c'est sous le contrôle du juge, pas de l'État. Mm-hmm. C'est pas la même chose. Sous le contrôle du juge. C'est très important en France, et dans une justice indépendante, de faire en sorte que le croisement des fichiers et les éléments de reconnaissance faciale, lorsqu'il y en a, soient sous le contrôle du juge, bien évidemment. Alors, sinon, on est dans des romans d'anticipation. Moi, ce que je redoute le plus, je vais vous dire, c'est pas qu'un État démocratique comme la France qui va trouver les moyens de contrôler ça. Le droit contrôlera finalement cette technologie dans notre pays. Parce que c'est plutôt Facebook, Google. Personne ne s'inquiète des déclarations de M. Zuckerberg il y a quelques jours, qui avouait le plus placidement du monde qu'il avait plus, si je puis dire, d'adhérents que d'habitants d'un certain nombre de pays du monde, y compris la Chine. Donc c'est plus ces grands GAFA qu'il faudrait essayer de contrôler, mais on sait que c'est très difficile, hein. C'est pas seulement de leur mettre une petite taxe fiscale, mais d'essayer de les contrôler parce qu'ils sont plus puissants, en réalité, que certains États. Et c'est eux qui développent ces technologies-là. Et on sera demain, si on les suit, dans le monde d'Aldous Huxley, le meilleur des mondes, ou de George Orwell, ou de Yevgeny Zamyatin. Mm-hmm. Voilà, tous ces auteurs qui, depuis le début du siècle,
nous alertent.
Nous alertent en disant « Attention, vous allez vivre dans une prison de verre ». Eh bien, la reconnaissance faciale, elle peut conduire à ça si elle n'est pas maîtrisée. Donc c'est pour ça que les déclarations du secrétaire d'État au numérique devraient aller dans le bon sens. Mais il faut aller, évidemment, jusqu'au bout. Et surtout, faire un débat citoyen, ça me paraît très important. Et on se rendra compte, à ce moment-là, qu'elle n'est pas si unanimement partagée, la reconnaissance faciale.
Félix Tréguer.
Mais je crois que c'est justement là le problème, c'est que on prétend organiser un débat alors même que ces technologies, ça fait des années qu'elles font l'objet de nombreux financements publics, notamment dans le cadre de projets de recherche français ou européens, qu'elles sont développées par des consortiums d'industriels, d'organismes de recherche publics. Donc on a balancé des dizaines et des millions d'euros de millions d'euros pour les développer, et aujourd'hui elles sont en effet, d'une absence totale de cadre juridique qui rend ces expérimentations illégales, d'ores et déjà déployées sur le territoire français dans le cadre de nombreux projets menés au niveau local. Et au-delà de la reconnaissance faciale, c'est la détection automatisée de comportements suspects à travers ce qu'on appelle la vidéosurveillance intelligente, en réalité automatisée, qui est en train d'être déployée à Paris, à Toulouse, à Marseille. Nice a également des projets en la matière. On a vu des applications de...
Donc là, c'est plus simplement le visage, c'est notre corps.
Oui,
c'est la façon dont le corps se déplace dans l'espace public.
Et il suffit pas, enfin, là, on parle aussi du coup d'applications de vidéosurveillance automatisée qui n'impliquent pas d'avoir, et ces fichiers existent et ils sont de plus en plus nombreux, des fichiers à disposition avec les empreintes faciales des personnes qu'on est susceptible de vouloir rechercher. Si on couple aujourd'hui les systèmes de vidéosurveillance là encore, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros d'argent public balancés ces 10 dernières années dans ces technologies pour un résultat assez faible. Mais aujourd'hui, on est incapable de les automatiser.
Mais pour être justement dans la compétition internationale, c'est ce qu'on dit.
C'est toujours un enjeu de filière industrielle, évidemment. Et ce qui pose problème, c'est-à-dire, juste, j'aimerais finir là-dessus. En fait, dans ce débat, on nous dit on doit le faire, ça se fera de toute façon, et il faut le faire parce que on le fait à l'étranger, et qu'il en va de la souveraineté technologique de la France ou de ses intérêts géostratégiques. Mais en faisant ça, en fait, on ferme l'horizon démocratique, on ferme la possibilité de débattre démocratiquement de la pertinence de
la légitimité. Mais la réponse, c'est ceux qui se masquent le visage, qui font du maquillage, etc., etc. C'est une réponse aussi à, face à justement à cette.
C'est une forme de résistance.
C'est pour ça qu'on pensait justement à résistance politique. François-David Seba. Sur ces questions justement de résistance politique, de façon justement de contourner ce qui va advenir et qui va de toute façon advenir, dit Christian Estrosi, parce qu'il y aurait comme une sorte de fatum qui nous tomberait dessus, on ne pourrait pas faire autrement.
Alors d'ailleurs là, il est frappant de voir à quel point c'est une opinion qui est fortement attachée à ce qu'est la technologie. C'est comme la technologie en général, c'est de la puissance. L'idée que ce qui peut être fait se fera inéluctablement, que c'est ça. La technologie porte en elle-même sa propre puissance, donc elle se déploie. Donc c'est toujours un peu curieux d'entendre souvent des discours politiques qui par ailleurs sont très volontaristes, revendiquent la liberté,
la possibilité d'agir. Dire on ne peut pas faire autrement.
Dire on ne peut pas, ça se fera. De toute manière, ça se fera. Donc faisons-le. Évidemment, c'est le contraire même de la résistance. La résistance, c'est minimalement. Elle n'est pas toujours frontale, justement. Elle est une bifurcation,
c'est
un
du biais. De côté. Voilà. Et c'est ce biais-là que l'on peut voir, effectivement, dans toutes les manifestations qui contournent, justement, les règles de l'autorité, en l'occurrence Pierre Piazza.
Oui, des formes de résistance. Après, là, je pense que la question qu'il faut se poser sur toutes ces technologies-là sont des questions très simples. Est-ce que ça fonctionne, déjà? Parce que ça ne fonctionne pas toujours très bien. Combien ça coûte aussi, est-ce que cet argent serait pas mieux, réparti pour gérer autrement les questions de sécurité ou d'insécurité, parce que finalement tout cela coûte très cher, il y a des investissements publics, etc. Est-ce qu'on gère mieux les questions d'insécurité en remettant des hommes sur le terrain, ou bien est-ce qu'on gère mieux par des techniques qui sont pas toujours très efficaces? Il y a ce vieux fantasme qu'on va régler les questions d'insécurité par la technologie, mais c'est avant tout des problèmes qu'on règle humainement. Et Bertillon avait déjà très tôt cette idée-là, hein, qu'à travers les fichiers, on allait changer le comportement des délinquants, qui s'apercevraient qu'on a des fichiers sur eux, des données sur eux, et donc qui rentreraient dans le droit chemin. Vous voyez, on a
ça n'avait pas marché.
Très vieux, ça marche pas. Voilà, ça marche pas. C'est pas parce qu'on met une caméra de vidéosurveillance qu'on supprime quelque part les problèmes d'insécurité.
Parce que l'imagination
change de rue, et ouais. Puis voilà, vous voyez, ça déplace le phénomène. Donc c'est la technique, elle ne résout pas tout.
Hein. Merci Pierre Piazza. Je rappelle que vous êtes le co-auteur du catalogue de cette exposition donc sur la science à la poursuite du crime avec Richard Marlet, d'Alphonse Bertillon aux experts d'aujourd'hui. Cette exposition se tient aux Archives Nationales à Paris. Merci à vous François-David Seba d'être venu nous parler de Lévinas et de bien d'autres choses autour de la reconnaissance faciale et de notre visage. Merci également à Jacques Barthélémy qui était en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Bourgogne à Dijon, que nous remercions pour l'y avoir accueilli. Et merci à vous Félix Tréguer de la Quadrature du Net, mais également chercheur post-doctorant au CERI Sciences Po. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richet, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Jacques Hubert. À la vidéo YouTube, Diego Hack Lopez, parce que nous sommes filmés ici dans les studios de Radio France aussi. Et à la réalisation, Anna Bui. Rebonsoir Arnaud Laporte.
Bonsoir à nouveau Emmanuel Laurentin. Je voulais venir masqué, mais j'avais peur que vous ne me reconnaissiez pas.
Forcément. Vous l'avez préparé depuis une heure.
Depuis une seconde et demie. Vous savez, moi c'est l'improvisation toujours et encore. Mais alors, beaucoup de travail pour préparer cette dispute musicale. Et nous allons parler dans un instant des nouveaux albums de Philippe Catherine, des Swans, de Brooke Candy et de Jim O'Rourke. Rien que ça, demain dans le temps du débat, Emmanuel.
Eh bien, dans le temps du débat demain, comment mieux suivre, mieux aider les victimes des attentats. Vous savez évidemment qu'on sera l'anniversaire des attentats du 13 novembre, ceux du Stade de France, mais également des terrasses et du Bataclan. Donc comment mieux aider les victimes d'attentats, c'est le thème du temps du débat demain.